la bibliothèque en vadrouille est à la donation Jardot à Belfort pour un petit entretien à la fin d'une conférence qui s'inscrit dans la programmation autour du livre Prose et plus particulièrement en écho à l'exposition À toute épreuve qui vient d'ouvrir il y a quelques jours dans cette même donation. Et nous sommes donc avec Corinne Barban. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, vous venez de donner cette conférence. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Vous venez du LAM, mais vous allez nous en dire plus.
Donc, Corinne Barban, je suis responsable de la bibliothèque Dominique Bozo au LAM, une bibliothèque qui a été ouverte en même temps que le musée en 1983.
Alors, je voulais qu'on démarre l'entretien en rentrant, même si nous sommes déjà physiquement parlant dans l'exposition, mais j'ai extrait dans le petit guide de l'exposition, justement, une manière peut-être de rentrer dans l'exposition qui s'intitule donc « À toute épreuve ». Et cet extrait, donc, c'est la dédicace de Limbourg à Baudin. Et c'est, je trouve, très beau. « À mon vieil ami, le Bouddha dépenaillé, lucide constructeur de songes, sage architecte des livres, avec la fierté d'avoir édifié avec lui ce petit monument sur le sable. » Donc je trouvais que, évidemment, c'était une bonne manière de rentrer dans le sujet, puisque cette exposition « À toute épreuve », vous allez un petit peu nous la résumer, c'est un choix de livre de la donation Jardot dans votre bibliothèque qui est exposé ici, c'est bien ça?
C'est bien ça. En fait, Maurice Jardot a donc donné ses tableaux à Belfort et sa bibliothèque au LAM. Donc la bibliothèque est arrivée au LAM en 2003 et cette exposition, c'est l'occasion de faire dialoguer les œuvres avec les livres ici à Belfort. Donc effectivement, Marc Verdure, le directeur des musées de Belfort, a fait un choix parmi les ouvrages du fonds Jardot pour entrer en résonance ici à Belfort avec les œuvres de la collection.
Alors, maintenant, on va revenir de nouveau au LAM, parce que ce que je ne savais pas, ce que vous avez rappelé au début de votre conférence, c'est que le LAM, dès sa construction, en 79, c'était une volonté, c'était de prévoir une bibliothèque. Donc, du coup, peut-être la décrire en quelques mots, et puis, justement, évoquer un petit peu les diverses étapes, 79, 94, et puis 2003, de manière un peu synthétique, pour resituer un peu votre outil de travail.
Alors, donc, en 1979, lorsque Geneviève et Jean Mazurel donnent leur collection d'art moderne et que, du coup, la métropole européenne de Lille engage la construction du musée, les Mazurel ont la volonté donc, qu'il y ait une bibliothèque au sein du musée. Cette bibliothèque, elle ouvre donc en 1983. Elle est dessinée par l'architecte du musée Roland Simonet et il donne un premier fonds de livres qui va être le fonds de départ de la collection. C'est une collection qui s'enrichit tout de suite, à la fois par dons, par échanges, par achats, mais aussi qui a la chance de bénéficier de très grandes donations, donc en particulier le legs de Dominique Bozo en 1994, plus de 5500 ouvrages, et c'est pour ça que la bibliothèque porte son nom aujourd'hui, avec beaucoup de catalogues d'expositions, de dédicaces, de livres d'artistes. Et puis en 1999, c'est l'arrivée de l'art brut avec la donation de la Racine, et là aussi en fait un fonds d'archives et de livres qui arrive à la bibliothèque, et ce qui fait qu'aujourd'hui la bibliothèque est vraiment la bibliothèque de référence en France sur l'art brut. Et en 2003, donc le legs de Maurice Jardot, avec près de 2000 ouvrages sur l'art moderne, et parmi ces livres, une centaine de livres illustrés par Matisse, Picasso, Miro, quelques chefs-d'œuvre.
Alors merci pour cette synthèse très très concise. Alors j'avais une autre question et qui va justement puiser aussi dans une réponse que vous avez donnée dans votre conférence. J'avais envie de vous demander comment cette bibliothèque dialogue avec les expos du musée, ou en tout cas elle fait vivre ce fonds qui a l'air considérable. Et vous avez dit pendant votre intervention que notamment pour ces livres d'artistes, vous organisez 4 fois par an des séances de feuilletage. Je trouve ça très intéressant comme démarche. Alors c'est peut-être un exemple parmi d'autres, mais voilà, on va peut-être essayer de résumer le volet plutôt animation que vous incorporez dans vos missions.
Alors simplement signaler, donc aujourd'hui la bibliothèque conserve plus de 40 000 ouvrages sur l'art moderne, l'art contemporain et l'art brut. On travaille de différentes façons, donc évidemment la bibliothèque travaille avec les conservateurs pour tout ce qui est la documentation des collections et la préparation des expositions. Je pense qu'il n'y a pas une exposition au LAM où il n'y a pas de livres de la bibliothèque dans les vitrines, puisqu'on a la chance d'avoir à la fois des ouvrages de référence et puis aussi de très beaux livres qui entrent en résonance avec les œuvres du musée. Et puis on a la chance de présenter aussi dans une salle qu'on appelle le cabinet d'art graphique de manière très régulière des expositions thématiques. Donc là, cette année, on présente l'intégralité du Juan Gris Reverdy au soleil du plafond, mais on a déjà fait au préalable des expositions sur Michel Léris et le livre illustré, sur les dédicaces d'artistes, sur le fond surréaliste par exemple. Et puis parallèlement à ces présentations dans les salles, on présente aussi des livres dans des vitrines du fond Jardot au sein de la bibliothèque. bibliothèque. Et puis, on organise des présentations de ces livres avec le public, donc à peu près 4 fois par an, sur des thématiques ou en lien avec un événement. Et là, le public est invité à regarder ces livres, ben, pas derrière une vitrine, mais voilà, à les voir de très près. Et on fait également aussi beaucoup de présentations avec les scolaires, avec les écoles d'art, avec l'université.
D'accord. Alors maintenant, avant de vous poser la dernière question, je vais introduire un moment de lecture, puisque lors de ces petits entretiens, j'essaie d'introduire des petits espaces pour la lecture, et ça vous laissera le temps pour réfléchir à un conseil de lecture, justement, puisque, voilà, donc ce petit fragment, je le trouve, évidemment, ça va être assez logique, dans la fameuse biographie de Pierre Assouline consacrée à Kahn Weller, l'homme de l'art, paru en 88, et j'ai trouvé un petit passage où il évoque Maurice Jardot. Justement, je vais vous le lire, puis après vous pourrez réagir si vous le souhaitez, mais c'est une manière d'introduire, voilà, une petite évocation de Maurice Jardot. Au cours d'une visite au musée Camondo, rue de Monceau, dans le 17e arrondissement, Maurice Jardot s'aperçoit qu'un immeuble moderne est en construction à 2 pas du parc, sur l'emplacement d'un ancien hôtel Rothschild. Il se renseigne, on peut acheter sur plan et le rez-de-chaussée, très bien agencé, vaste, bien éclairé par des fenêtres, donnant sur des jardins, conviendrait tout à fait. Kahn Weller accepte, non sans avoir auparavant écarté une autre proposition, rue de l'Abbaye. Elle était rédhibitoire pour 2 raisons. Il ne veut pas ouvrir une galerie sur la rive gauche et, de plus, se refuse à ce qu'elle ait une vitrine sur la rue. « Je veux qu'on se déplace pour venir chez moi. Je ne veux pas qu'on entre en passant devant », dit-il à Maurice Jardot. Voilà, juste apporter ceci comme ça, comme une petite illustration, et que ça fait écho aussi, bien entendu, à une personne que vous avez citée dans votre conférence, bien entendu. Voilà, donc je ne sais pas si vous vouliez réagir, vous le connaissiez peut-être, j'imagine, cet ouvrage.
Je l'avais, oui, je connais bien l'ouvrage, mais j'avoue que la citation, je l'avais oubliée. En tout cas, disons peut-être que la position de Kahn Weller, ça peut faire écho au livre illustré, justement, des choses qui sont à la fois cachées et visibles, et qu'il faut aller chercher, qu'il faut... faut prendre le temps de rencontrer. Donc je pense que voilà, Kahn Weller, justement, il avait cette volonté de que l'art soit accessible à tous, enfin soit accessible, puis qu'on puisse le rencontrer, mais que néanmoins ça demande un chemin. En fait, il faut parcourir un chemin et que il faut quelque part gagner ça aussi. Et donc le livre illustré, pour moi, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose justement qu'il faut ouvrir, il faut prendre le temps en fait de s'y plonger et de le regarder.
Très bien. Alors maintenant, voilà, arrive le moment de l'ultime question qui réunit un petit peu tous les divers invités de ce petit blog. C'était de vous demander donc un conseil de lecture. Je sais que c'est forcément réduit comme question. Alors ça peut être en lien avec l'exposition ou pas du tout, puisque comme vous gérez une bibliothèque extrêmement fournie, extrêmement bien achalandée, si on peut emprunter ce terme au commerce, je pense que vous avez dû déjà trouver dans votre parcours professionnel de multiples trésors, voilà. Donc, je ne sais pas si quelque chose vous vient comme cela.
Comme cela. C'est difficile, en fait. Parce que, en fait, j'avais pensé à peut-être un livre, mais qui n'était pas un livre à lire, parce qu'on avait fait un travail sur les gravzines. C'est des livres, en fait, qui sont faits par des artistes, on va dire, underground. Donc, pour le coup, des livres qui sont vendus à des prix complètement libres, où il n'y a pas toujours du texte, où c'est souvent assez, assez violent. Mm-hmm. Au LAM, on avait fait une exposition avec l'université sur les gravzines. Et c'est des livres qui sont très, très surprenants, qui bousculent, qui ont à voir avec à la fois le livre pauvre, le livre illustré. Et on avait fabriqué même un gravzine au LAM, donc il y a un petit gravzine du LAM.
Donc, c'est un tirage unique.
Un tirage, du coup, qui est en sérigraphie, donc qui existe à plusieurs exemplaires. Mais voilà, c'est peut-être ça aussi, ça fait partie des livres qui sont peu connus et qu'il faut aller rencontrer, qu'on rencontre souvent aussi par hasard, hein, puisque on a souvent une image très classique et très banale du livre. Et en fait, quand on regarde un petit peu à côté, on peut trouver le livre d'artiste, mais on peut aussi trouver le gravzine, par exemple.
Merci, et puis je trouve que ça illustre aussi une révitalité de la petite édition, de la micro-édition.
Complètement, parce que là, le gravzine, c'est vraiment la micro-édition.
On est dans ce domaine-là, et pour avoir l'occasion de parcourir quelques salons ou micro-salons, j'ai l'impression de vraie vitalité, donc c'est une référence qui m'intéresse. Donc je vous remercie.
Merci à vous.